Donc l'importance des matières, Elisabeth, pour toi, il y a des tissus privilégiés dans ta façon de sentir le vêtement ? Il y a des choses que tu bannis complètement, tu vois d'avance, non ça, jamais, je sais que c'est trop inconfortable, ça colle, ça chauffe, ça épouse pas comme il faut le corps, je ne sais.
Oui, souvent les choses moulantes qui sont dans des matières trop presque collantes ou bien comme le vinyle qui ne vont pas laisser passer les odeurs ou qui vont enfermer les odeurs qui après, à force d'être enfermées dedans, elles ne sont plus très bonnes. Et les choses moulantes mais qui ne laissent pas bouger, qui ne laissent pas respirer. Certains synthétiques aussi qui n'ont pas une bonne tenue, qui vont dans n'importe quel sens. Il y a des synthétiques qui sont super. Et de nos jours, il y a des recherches en textile qui sont extraordinaires, qui font des tissus tout aussi beaux et magnifiques que, par exemple, la soie, le cachemire, le lin, des choses comme ça.
Est-ce que les couleurs jouent un rôle dans tes choix et dans ton regard, justement ?
Ah oui, les couleurs jouent un rôle très important. Et il y avait une époque où je m'habillais tout en noir, mais après mon passage en Afrique, où j'avais vu notamment les femmes habillées avec tant de couleurs et avec quelque chose de resplendissant. Aujourd'hui, je m'habille avec beaucoup plus de couleurs. J'essaie aussi de faire des contrastes. Et parfois, j'arrive ici à des soirées dans le milieu culturel genevois où tout le monde est en noir, brun et gris. On est peut-être deux en rouge et bleu ou rose et vert. Mais il y a aussi une énergie dans ces couleurs qu'il n'y a pas forcément dans les couleurs noires, le noir.
Alors effectivement, Moule Afrique, ça regorge de couleurs. Et puis, de tissus, c'est plutôt le coton qui est la matière privilégiée ?
Oui, oui, le coton, parce qu'il fait chaud.
Et on ne s'abuse pas à porter du synthétique.
Mais
non
moi,
plus.
J'ai pas ce problème-là, que ce tissu est ceci ou cela. Moi, je l'utilise à ma manière.
Peu importe sa qualité.
Oui, ça, c'est pas important pour moi.
Alors, Elisabeth va nous emmener maintenant au rythme d'une, deux, trois, quatre, cinq intérêts particuliers qui est là à propos de l'art du vêtement. Ces intérêts que, d'ailleurs, nous pouvons déjà vous le dire, feront l'objet d'une sorte de petit feuilleton. N'est-ce pas, Elisabeth ? On peut appeler ça comme ça. C'est un peu étrange, mais c'est quand même comme ça. C'est-à-dire qu'Elisabeth vous propose de la retrouver à partir de la semaine prochaine ou toutes les semaines. Pour le dernier quart d'heure ou les dernières 10 minutes, enfin ça la longueur variera selon les semaines, mais pour justement vous parler d'une page de cet art du vêtement qui l'intéresse. Pourquoi tu as envie de faire ça, Elisabeth ? Raconte-nous.
Parce que je crois que j'ai eu envie de transmettre que l'habillement, c'est pas du tout quelque chose de frivole ou de futile. C'est pas du tout quelque chose qui concerne seulement les femmes. Je pense que personne, au sortir du lit, ne met n'importe quoi. Même si on dit « Oh, moi, ça m'est égal, je suis pas la mode ». Le fait de ne pas suivre la mode, ça veut dire qu'on sait qu'est-ce qui est à la mode et donc qu'on met quelque chose exprès qui n'est pas à la mode. Donc on est quand même dedans. On se positionne par rapport à ce qu'il y a en général. Et même quelqu'un qui ne s'habille pas à la mode ne va pas mettre quelque chose de démodé. Il va mettre plutôt quelque chose d'un peu indifférent ou qui ne se fait pas remarquer. Mais il ne va en tout cas pas porter, par exemple, un pantalon taille basse, patte d'éléphant, avec les vraies pattes d'éléphant très larges aujourd'hui.
C'est à la mode maintenant, c'est à la mode maintenant.
Oui, mais le vrai, comme on le faisait avant, il ne l'est pas. Il est coupé différemment.
On ne s'habillera pas comme à l'époque Louis XV. Donc
exactement.
C'est ça que tu veux dire. Par contre, quelqu'un peut choisir strictement le vêtement dans lequel il est confortable, où il n'a pas besoin de réfléchir, il est bien, point la ligne, c'est tout.
Tout à fait, mais ces vêtements-là peuvent être à la mode ou pas, par exemple. Là, ce n'est pas le critère mode qui rentre en ligne de compte. Alors, je pense que j'ai envie de faire passer ces différents messages. Ensuite, pour moi qui travaille plutôt sur le 15e siècle en ce moment, c'était passionnant et stimulant de me dire que j'allais renouer avec les vêtements d'aujourd'hui et puis d'observer quel est notre rapport aux vêtements, qu'est-ce qui se passe avec les magasins, avec les magazines de mode, avec les défilés par exemple, et de réfléchir à ça et de faire une petite série sur la mode et le vêtement aujourd'hui.
Alors, tu le sais quand même, Elisabeth, parce que je te l'ai dit, nos auditrices principalement sont des femmes qui réfléchissent plutôt aux contraintes qu'on fait porter en général sur le dos des femmes et qui donc sont récalcitrantes sur un certain nombre de choses concernant la femme objet, la femme que l'on utilise comme porteuse d'un discours machiste, etc. Donc, tu sais qu'il va falloir dealer avec ça.
Oui, je sais, mais je pense que étudier une société à travers les vêtements et le système de l'habillement peut révéler tout un tas de questions qui fondamentales, qui sont en lien avec les rapports entre les hommes et les femmes, avec la place dans la société de l'homme et de la femme, les rapports avec les enfants, comment on considère nos enfants, qu'est-ce qu'on en fait, les rapports avec l'industrie, des choses pas du tout, enfin des choses qui sont vraiment ancrées dans notre vie aujourd'hui et dans notre société et dans l'économie.
Alors, de l'autre côté de la chanson d'Annette Picotte, deuxième chanteuse que nous fait découvrir Elisabeth, eh bien, nous aborderons ces différents chapitres que vous découvrirez bien plus amplement ensuite dans les différentes pages feuilletons d'Elisabeth Fischer. Annette Picotte dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et aujourd'hui, nous évoquons l'art du vêtement en compagnie d'Elisabeth Fischer et d'Oumoussi. Oumoussi qui est une styliste costumière sénégalaise. dont vous pourrez découvrir la vie, en quelque sorte, en allant voir le spectacle « La vie a de longues jambes », spectacle qui est montré dans le cadre du festival de cinéma Black Movie, qui est le spectacle, vous pouvez le découvrir, depuis ce soir jusqu'au 24 novembre, c'était hier soir la première, c'est en général à 20h30, sauf ce soir mercredi à 19h, attention. Alors, nous en étions à dire que Elisabeth va nous proposer des petits feuilletons, si l'on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire des pages particulières dans chacune de nos prochaines émissions pour évoquer certains intérêts particuliers, certains regards qu'elle pose sur certains sujets concernant l'art du vêtement. Alors, il en était un, Elisabeth, dans lequel tu m'as plongée tout de suite hier soir. C'est une sorte de critique de l'image que l'on donne des femmes, des gens qui portent des vêtements, et ceci par l'intermédiaire du défilé de mode. Est-ce que nous plongerions nos auditrices et auditeurs directement dans l'atmosphère du défilé de mode? C'était hier soir au Griffin Club, et oui, rien moins que cela, à Genève.
La femme qui aime se mettre en valeur, qui ne renonce pas à séduire et qui peut aussi jouer avec la sensualité et le mystère. C'est donc tout un programme que nous vous proposons ce soir. Et pour vous, messieurs, Santiago vous propose un petit clin d'œil. Alors, un moment du jeu, bonne soirée.
Qu'elle se lève le matin et puis qu'elle n'a pas mis de... Quelles impressions, Odette? Je trouve qu'elle a des jolies cuisses bien dodues. On voit pas les jambes des mecs, hein. Là, pour nous les femmes, on ne montre rien. Elisabeth, on a droit à défiler de pullover. Mais qu'est-ce que t'en penses? De pullover et de chaussures avec lesquelles il est difficile de marcher. Le voguing, c'est-à-dire tu bouges pour ressembler à une photo de mode, c'est très saccadé, puis tu t'arrêtes dans les positions qui sont comme ce qu'il y a dans Vogue. C'est pour ça que ça s'appelle voguing. Ce qui m'étonne, Elisabeth, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont là pour regarder ce défilé. C'est logique? C'est parce que c'est aux femmes que qu'on s'adresse d'abord avec la mode, c'est elles qu'on essaye d'attraper. De provoquer un désir chez elle.
Moi, je trouve que le défilé de ce soir, ça me rappelle un peu le défilé de cet après-midi. Les femmes, quand elles marchent, on a l'impression qu'elles marchent au pas militaire. Elles jettent leur bassin en avant, leur serre en avant, on a l'impression qu'elles vont larguer des bombes. et tout ça, ça casse un peu la beauté éventuelle des vêtements qu'elle porte.
Cette noire, cette fille qui défile actuellement.
Vous ne serez pas étonnées, chères auditrices, de la force de notre voix, parce que vous, ça n'a pas l'air quand vous écoutez comme ça, parce que l'enregistreur filtre un petit peu la force mais du son, mais nous étions assourdis. Et forcément, on croyait qu'il fallait forcer notre voix pour nous parler, pour se faire entendre l'une l'autre. C'est pour ça que nous hurlons beaucoup lorsque nous parlons, alors que vous ne devez pas avoir cette impression. Alors, Elisabeth, évidemment, ce que nous avons vu hier soir n'est pas l'art du vêtement qui t'intéresse particulièrement.
Non, il y aurait plusieurs choses à dire. Déjà, dans le commentaire de la présentatrice, elle parle par exemple de la femme qui ne renonce pas à séduire. Ça implique un discours qui est prépondérant dans la mode. C'est qu'une femme, pour être séduisante, doit être habillée d'une certaine façon et pas d'une autre. Et l'idée de ce styliste qui a été présenté en premier hier était une idée très courante. C'est la femme dans des vêtements très décolletés, très serrés, très moulants, avec des hauts talons, parfois des chaussures à plateforme qui l'empêchent de marcher normalement. Une femme harnachée, où il y avait même un peu des références à tout le monde du sadomaso. Alors qu'il y a certains, au fond, si on est bien dans ses vêtements, quelqu'un qui est à l'aise est très sensuel, peut être très sexy sans forcément avoir un décolleté jusqu'au nombril ou la bretelle du soutien-gorge visible. Ensuite, elle parle de la femme et son mystère. Ça, c'est encore un de ces grands mythes qui est véhiculé par les magazines de mode qui font un mythe des créateurs, comme quoi le créateur comprendrait d'une façon essentielle ce qu'est la femme à l'intérieur et l'aide à ressortir ça. Mais c'est un diktat, c'est une idée que se fait notre société de ce que doit être une femme, et c'est ça qui est imposé. Alors que quelqu'un qui joue un peu avec son apparence peut trouver son idée personnelle de qu'est-ce qui est séduisant et quelque chose qui est en mouvement et qui change constamment. Ensuite, on avait parlé des matières, et là, il y avait beaucoup de matières très cassantes, très épaisses, ou le vinyle, qui n'épouse pas du tout la façon de bouger ou les formes du corps. Et les coupes, en plus, accentuaient ça avec des pinces qui rendaient les seins pointus, qui, disons, imposaient une forme au corps. Alors que, par exemple, ce qu'on avait vu dans le deuxième défilé, qui était fait par une jeune styliste, une femme, en tout cas, le début, c'était des matières qui étaient moulantes, mais qui n'étaient pas contraignantes, qui n'étaient pas, qui, disons, exaltaient la forme de la femme sans la changer, sans en faire autre chose que ce qu'elle était. Et ce qui était d'ailleurs aussi frappant, c'est que là, les mannequins avaient des chaussures beaucoup plus confortables qui leur permettaient de bouger de toutes sortes de façons et donc d'exprimer une gamme beaucoup plus large d'émotions et de sensations corporelles. Et moi, je les trouvais beaucoup plus belles et attirantes, ces femmes, que les mannequins, hommes et femmes, qui étaient présentés dans le premier défilé.
Alors, en plus, quand elle marche, on a vraiment l'impression de voir, même pourtant qu'elle bouge, on a l'impression de voir exactement ce que l'on voit dans les magazines de mode, ces photos toujours les mêmes, figées de femmes qui présentent des vêtements. Est-ce que c'est le vêtement qui est le plus important et qu'elles ont pris l'habitude d'être et de bouger d'une certaine façon pour qu'on en voit que le vêtement? Mais c'est vrai que la personne n'existe pas finalement dans cette histoire. Alors toi, tu as beaucoup travaillé derrière cela, à tel point que quelquefois tu t'es intéressé à des images et des gens qui travaillent avec le vêtement, mais sans la personne dedans, parce que c'est le vêtement qui importe et non pas la personne qui est dedans, pour pouvoir en discuter, y compris pour les personnes qui les portent, mais pas gênées par cette apparence.
Oui, enfin, peut-être pour rendre ça, pour aider à comprendre, il y a beaucoup de gens s'habillent comme ce qu'ils voient dans les magazines, sans réfléchir, est-ce que vraiment ça reflète ce que je suis? Et c'était ça qui était apparent dans le défilé de mode, c'est un cercle vicieux, c'est pour correspondre à cet idéal. Ce styliste d'ailleurs faisait référence à des tas de choses déjà vues et n'apportait vraiment rien de nouveau ou rien de personnel. Et c'est un peu comme quand on essaye soi-même un vêtement dans le magasin. Soit on peut se dire, est-ce que ce vêtement reflète qui je suis ? De quoi est-ce que ce vêtement a l'air sur moi ? Est-ce qu'il me colle à la peau ou pas ? Ou de quoi est-ce que moi j'ai l'air dans ce vêtement ? C'est une démarche différente. Et quand on dit de quoi est-ce que moi j'ai l'air dans ce vêtement, on va plus vers est-ce que je correspond à une image déjà donnée, tandis que de quoi est-ce que ce vêtement a l'air sur moi, on se pose vraiment la question de quel rapport je peux établir avec ce vêtement. Et ce qu'on a vu dans le défilé, il n'y avait pas du tout la préoccupation de quel pouvait être le rapport de la personne avec le vêtement, puisqu'on proposait même des vêtements inconfortables. Alors que certains couturiers, comme par exemple un qui est très connu, c'est Issaïe Miyake, se préoccupent autant de l'intérieur du vêtement et de la sensation pour la personne qui porte le vêtement que de l'apparence extérieure.
Oumou, est-ce que c'est des questions que tu te poses toi aussi lorsque tu crées ces vêtements ? Est-ce que tu penses aux gens qui vont porter tes vêtements ?
Mais ça d'abord, penser d'abord aux gens qui portent les vêtements. Et puis ensuite, penser au reste. C'est très important ça.
Et alors toi qui es en train de préparer un défilé pour le 1er décembre, qui sera montré toujours dans le cadre du festival Black Movie, est-ce que les choses vont se passer comme ce que nous venons d'entendre, avec de la musique très forte ?
Non.
Comment ça va se passer ?
Non, ça c'est autre chose.
Alors ?
C'est pas du tout pareil. Non. Alors, j'ai pas vu le défilé, mais je sens qu'il y avait une musique très forte. Et ah oui. J'imaginais la salle déjà, je crois qu'il y avait la fumée, que les gens, ils avaient peur, pas ouvrir les yeux.
Exactement.
Non, ça ne va pas se passer comme ça.
Alors, qu'est-ce qui t'importe de montrer lorsque
là,
tu fais un défilé ?
Là, il y aura une musique vivante, il y aura quelqu'un, un de mes mannequins qui va chanter directement. De toute façon, dans mes défilés, bien que les costumes, je sais qu'ils ne sont pas extraordinaires, mais je fais attention que ce soit une histoire d'abord à raconter aux gens avant de leur montrer les modèles.
Qu'est-ce que tu veux dire par histoire ?
Il y a toujours une mise en scène, toute petite mise en scène, avant tout.
Pour montrer que le vêtement est lié à quelque chose,
bien
justement ?
Bien sûr, le vêtement, il doit parler. Et puis, ça doit faire revivre tout. C'est-à-dire, la personne qui porte le vêtement doit bien sentir qu'il a porté un vêtement. Et les gens qui doivent regarder doivent comprendre que ça, c'est un vêtement. Ça, c'est très important.
Et pourquoi montrer tes vêtements ? Est-ce que le défilé, c'est une chose importante pour toi ? Ce moment de communication entre les gens et toi qui montres ce que tu as fait, ton travail ?
Ça, c'est Claire Talia qui m'a demandé de faire un défilé. Je ne l'ai vraiment pas préparé. Je l'ai préparé en 12 jours.
Donc Claire Talia qui travaille au Moulin Danse, c'est ça ?
Moulin Danse, parce que j'avais déjà fait des ateliers ici il y a 2 ans. Quand Elisabeth a crié en sanglots au supermarché, à la placette, parce qu'on devait acheter des tissus pour compléter ce stage, pour faire qu'il y ait une bonne collection et tout, parce qu'il y avait des élèves qui étaient là, qui apprenaient des cours de création de costumes africains. Et moi, je suis allée pour acheter des tissus, je n'arrivais pas à acheter. Alors, elle me fait montrer des magasins, on part, je n'achète pas.
Puis pourquoi tu
après, d'un coup, je la vois pleurer, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu pleures, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, c'est parce que tu n'achètes rien. Je lui dis, mais j'ai rien vu.
Tout était trop cher.
C'était cher, énormément cher. Et que moi, j'ai l'habitude soit de prendre le fil et de tisser, de faire tisser mes tissus ou de les teindre, de peindre, de mettre un coup de pinceau sur quelque chose et le coudre. Et là, si tu viens, tu demandes un mètre de tissu, tu calcules ça avec le franc CFA, tu t'en sors pas. Alors moi, je ne pouvais pas acheter ces tissus-là.
Au grand désespoir d'Elisabeth, qui, elle, avait donc organisé ce stage, c'est ça, Elisabeth ?
Oui, j'avais donc fait un voyage en Afrique où j'avais rencontré Oumoussi très rapidement au Festival de films de Ouagadougou.
Au Festaco, oui.
Oui, et après, grâce à un ami à Dakar, on avait pu enfin se contacter par fax et par téléphone. Et dans le cadre de Black Movie, un festival de cinéma qui a lieu au Théâtre Saint-Gervais où je travaillais, on invite toujours une personnalité. Et j'avais proposé d'inviter Oumoussi et d'organiser un stage.
Oh, oui.
J'avais proposé d'organiser un stage pour des stylistes et des costumiers déjà professionnels pour qu'elle amène son savoir africain qui est différent du savoir d'un styliste suisse. Et donc c'était la première fois de ma vie que j'organisais un stage et il y avait eu quelques petits trébuchement comme ça dans celui qu'elle n'avait pas pu amener assez de bagages et que j'avais pu trouver enfin de l'argent pour aller acheter des tissus et enfin on trouvait quand même pas les tissus et c'est pour ça que je m'étais mis à pleurer.
Oui, mais ça va, on a quand même fini par boucher le trou et on a fait ce défilé. Il y a eu une mise en scène sur lequel il y avait Joseph, non?
Oui,
qui jouait le rôle du roi,
un acteur africain établi à Genève, Joseph. Oui.
Et que de temps en temps, il oubliait qu'il était roi. Et à un moment donné, il se rappelait que c'est le roi, alors il bombait la poitrine.
Est-ce qu'à Dakar, tu fais aussi des défilés?
À Dakar, je fais des défilés, mais pas dans les salles, je fais dans les rues. Et à Saint-Louis, par exemple, au Sénégal, j'ai fait un défilé il y a 3 ans. Et j'ai occupé toute la place de l'indépendance, la place Federbe. C'est des défilés qui occupent toutes les rues, ça, c'est des grands défilés.
Donc, monsieur et madame tout le monde suit ton défilé à ce moment-là. Ce n'est pas le public sophistiqué des défilés.
Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin des enfants, des handicapés, des pauvres, des gens qui n'ont pas de billets pour acheter, pour rentrer dans une salle. Moi, je n'ai pas besoin que les gens payent pour voir ce que je fais. Je veux que les gens regardent ce que je fais. Ce que je veux plus, c'est les gens qui n'ont pas les moyens de se payer un billet. Parce que moi, quand j'étais petite, je n'avais pas les moyens d'aller apprendre quelque chose ou de rentrer quelque part. Je n'avais pas les moyens de tout ça. Et moi, ces gens-là, c'est ceux qui m'intéressent le plus.
Donc, finalement, tu as envie qu'ils partagent ta joie de créer des formes, des habits, parce que très certainement que ce n'est pas eux qui t'achèteront ces vêtements-là non plus. Donc, c'est un autre
parfois,
type de partage.
Moi, je ne vends pas parfois mes vêtements. Je préfère les donner. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter, écoutez, je ne vis pas de fraîche et d'amour, mais je nourris mes enfants et tout, mais il y a des gens, je ne leur vends pas, je leur donne. C'est ça, il faut donner.
Et comment tu fais circuler ensuite tes vêtements? Parce que je crois que certains d'entre eux nous parviennent quand même jusqu'ici, en dehors des moments des défilés, une fois par année. On a la chance de voir Oumu maintenant, depuis qu'Elisabeth l'a fait venir, l'a conviée à Genève.
Oui, maintenant je suis genevoise.
Oui, quasiment. Mais pourtant, par exemple, hier soir, avec les amis avec qui nous étions dans ce défilé-là, on nous demandait, mais et puis les habits d'Oumu aussi, comment on peut les avoir si on désire acheter des habits d'Oumu alors?
Enfin, ça, c'est quand même des vestes qu'on va vendre, les manteaux et tout ça que j'ai fait, des choses, j'ai fait des choses qui seront à vendre, mais ce sera après le défilé.
Donc l'essentiel de ton travail n'est pas vraiment de vendre les vêtements.
Ça ne va pas être cher.
Oui. Alors beaucoup de critères, Elisabeth, qui n'ont rien à voir avec le défilé de chez nous.
Non, absolument pas. Et la plupart des défilés, disons les défilés qu'il y a à Paris, c'est vraiment pour une élite. Et c'est un ami comédien qui m'avait donné cette image. Il a dit, par rapport aux vêtements de monsieur et madame tout le monde, la haute couture, c'est comme la Formule 1 par rapport à la petite Fiat qu'on va s'acheter dans le garage.
Et je crois que tu as d'ailleurs, tu t'es penchée aussi sur le rapport entre passé et présent, justement sur ce symbole de la cour que l'on réunit pour montrer certaines choses. On va en parler tout de suite, mais tout d'abord, découvrons une chanteuse que d'ailleurs je crois que nous avons déjà écoutée sur nos antennes, qui est une chanteuse éthiopienne, Aster Aweke.